Il était une fois... RFJ.
Ben voilà, on vous accueille encore vous, Jean-Michel, pour ces bons souvenirs.
Ouais, j'aime bien le encore vous.
Hein. Ah oui.
On a cherché l'animateur aux cheveux gris qui connaissait un petit peu l'histoire de la radio et puis on s'est dit, lui, il doit connaître ceux qui faisaient de la radio en
il
noir et blanc.
Il a une tête à être là depuis longtemps.
Voilà. Bonjour Corinne.
Salut Jean-Mi, bonjour tout le monde.
Oh, Corinne, quel bonheur. Oui. Alors,
c'est toujours aussi simple.
La première
micro,
impression.
Un casque.
Voilà, exactement. La première impression, lorsque vous arrivez ici, que vous voyez cette tente.
Du bonheur.
Mm-hmm.
Que de bons souvenirs.
Et des souvenirs, hein.
1984-1998, j'ai tout fait.
Ah oui, alors c'est bon, on peut y aller. Racontez-nous. Voilà.
Je suis la seule à avoir vu Pierre Stulet en pyjama.
D'accord.
Dans des
ça
conditions tout à fait.
Ah, il y a Yves Boil.
Vous
avez de la concurrence, hein.
Parce qu'à 6h du matin, lorsqu'on commençait et que le technicien ne s'était pas levé, on téléphone à Rose Maison et notre patron, Pierre Stulet, arrivait en courant pour faire le technicien. Bien sûr que c'est que des bons souvenirs. Et la radio n'a pas changé, ça reste toujours le même média.
Ça reste toujours le même média, mais quand même en 1984-85... Quand on faisait de la radio, c'est vrai, on arrivait le matin un petit peu. C'est pas, aujourd'hui, on arrive dans une entreprise. Avant, on arrivait vraiment entre copains, on levait le bouton et puis on s'amusait.
Attention, toujours pro. Hein.
Ah oui.
Très, très pro.
Quand même.
On finissait à 9h.
On vient plus en pyjama à la radio.
Oui, non. Mais c'est juste pour dire que tout le monde savait tout faire.
Mm-hmm.
On n'a jamais mélangé les animateurs et les journalistes.
Oh, ça ne se fera jamais.
Non, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ça, c'est évident. Mais ce que je veux dire, quand vous voyez le patron...
Ça vous appartient.
Non, mais c'est vrai. De ce qui est venu, de ce qui est devenu BNJ. À l'époque, c'était Fréquence Jura. Quand moi, je peux dire, je connais Pierre Stulet qui faisait de la technique en pyjama. Quand j'ai connu Olivier Veu, Pascal Robetti. D'ailleurs, je me pose la question.
Olivier Veu, il est déjà reparti.
Paraît-il. Est-ce que... Pour le groupe BNJ, il faudrait poser la question à Pierre. Est-ce qu'il y a, c'est comme dans les transferts au niveau du hockey, du foot, est-ce qu'il y a des primes? Parce que ils sont tous passés par chez nous avant d'arriver là-haut. Jean-François Rossi, Pascal Robetti, Christophe Cerf, Chloé Stoyelet, Christelle de Mongeau. Et j'en oublie, on les a tous formés. Ils sont partis là-bas, mais c'est des nôtres. C'est chez nous qu'ils ont appris à travailler.
Et vous, vous êtes
Puis si vous avez travaillé pour Pierre Stulet, vous savez travailler.
Ça, c'est clair. Hein,
ah, ça
a le mérite d'être clair. Bon, 1984-1988, c'est votre...
Plus de
micro. Moi, on m'a coupé. Ah, j'ai plus rien, d'ailleurs. Ah ouais, non mais... Ah si, j'ai encore quelque chose. Ah mais j'entends plus rien dans mon oreillette.
C'est juste les oreilles qui fonctionnent plus.
Ah, c'est les oreilles qui fonctionnent. Les oreilles, elles vieillissent encore un petit peu, mais ça fait rien. Et il faut bien un bêtisier pour les 50 ans de la radio. Hein. Non mais ça fait rien, sans oreilles, ça va aussi. Alors, 1984-1988, première expérience radio. Qu'est-ce qui reste comme souvenir, justement, de cette folie de l'animation?
Le bonheur.
Mais qu'est-ce que tu veux? Oh, mais il est
ah
bien.
Ah ben voilà, Yves. Yves Boil.
Ce technicien qui fouille mes poches pour retrouver l'amplificateur du casque.
Yves Boil, c'est monsieur non.
Oui.
C'est monsieur non. Chaque fois qu'on avait un problème technique ou lorsqu'il fallait refaire un CD ou une cassette, on téléphonait à Rose Maison, on disait Yves, tu. Non. Il disait toujours d'abord non.
Ah,
puis après,
il
le faisait.
Se fait respecter.
C'était, comme il dit, sa manière de se faire respecter. Ça m'a appris à connaître le Jura, moi qui n'ai jamais fréquenté en Ajoie. J'ai connu la brillante Ajoie grâce à Fréquence Jura, grâce au qui dit mieux. Il n'y avait pas de GPS à l'époque. Si tu partais sans ta carte routière et que tu ne connaissais pas l'Ajoie, ben, tu te perdais. Il n'y avait pas l'autoroute. Mais bon, on ne va pas faire de la nostalgie. On a toujours été des professionnels conscients de ce qu'on apportait et surtout ce que les gens nous ont apporté. C'était inouï, les téléphones, les cartes. Et moi, ça m'a beaucoup aidé par la suite dans ma vie d'avoir fait... D'avoir fait de la radio, ça c'est évident. De connaître le monde des médias, c'est évident.
Alors, vous avez été, Corinne, vous avez été animatrice, vous avez été responsable d'animation aussi. C'était pas toujours évident, évidemment. Comment ça se passe quand on devient responsable d'animation, qu'on doit gérer une équipe, qu'on doit gérer quelques électrons libres, et puis faire avec un technicien en plus qui dit toujours non?
C'est comme dans n'importe quel métier. Vous prenez de l'âge, vous prenez de l'expérience et puis vous faites aller pour le mieux. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'en 1997, sauf erreur, quand Pierre Stulet a racheté RGB, ça a été une histoire incroyable. Pierre nous, ses cadres, je faisais partie de ses cadres parce que j'étais responsable d'animation. Pierre nous dit, ben voilà, à partir de demain, c'est fait, on a négocié. On doit absolument remonter RGB. Alors j'annonce à mon équipe d'animateurs, j'ai dit, voilà les cocos, on a une nouvelle station qui s'appelle RGB. D'ailleurs, j'étais tout étonné parce que j'avais déjà entendu Claude Catin. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ce numéro sur RGB? On n'a pas idée. En fait, Pierre avait déjà fait le transfert des animateurs. Et j'ai dit à mon équipe, le premier qui me fait une bêtise, je le mute en province. Je le mets à Tavannes. La première à avoir été mutée, c'est moi donc. Hein. Sans avoir fait de bêtises, mais pour dire. Et puis maintenant, RJB, RTN, c'est juste extraordinaire ce qui s'est fait. Et puis, comme ils ont réussi le groupe à s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles forces, et surtout, ça a toujours été un groupe indépendant.
C'était pas possible autrement, hein, finalement, que de s'adapter aux nouvelles technologies, parce que sans les technologies actuelles, c'est difficile d'imaginer un média et vivre, notamment sur le net. Oui, non ?
Oui. Bon, maintenant, tu me donnes un agrès, je te monte un son. Je vais en haut avec le numérique et t'oublies, quoi.
Ah, mais évidemment, mais ça fait partie de l'évolution. Il faut travailler avec. Vous avez évoqué quand même quelque chose d'important, c'était le terrain. Le fait de connaître cette région grâce au terrain, grâce aux rencontres, grâce au fait qu'on regardait une carte avant d'aller sur place, et c'est là qu'on apprenait aussi à connaître la région.
Oui, et des interviews improbable dans des endroits complètement inattendus.
La plus improbable.
Oh, je
allez, 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 une petite idée.
Oh, c'était en Argentine, je dirais pas plus.
Non mais allez, Corinne, allez. Non, vraiment une interview improbable. Non mais alors une autre. Non mais vraiment une interview improbable. Moi je vous le dis, je vous en dis une et puis après vous m'en dites une, d'accord? Je faisais une interview, c'était à Morges, dans un théâtre avec un artiste. Je n'avais malheureusement plus de batterie, plus de piles, plus rien du tout. Je n'avais que l'électricité. On était dans un tout petit théâtre où il n'y avait plus d'électricité. Il devait y avoir une panne. Et le seul lieu où l'électricité était encore possible, c'était dans les toilettes. Ce qui fait que j'ai fait une interview de 10 minutes avec un artiste dans les toilettes d'un théâtre à Morges. Ça, c'était un moment relativement improbable. D'autres ?
C'était
Corinne ?
Au marché Goncourt.
Oui.
Lorsque le ministre à l'époque, Jean-Pierre Beuret, je crois que j'avais traité de conseiller d'État plutôt que de ministre. Ça avait été assez dur à l'antenne.
Ah, ça, c'est fou, hein. Lorsqu'on se rend compte qu'on est en face de l'interviewé et qu'on se rend compte que, qu'on a bafouillé, hein, finalement. Mais pour en revenir sur ce terrain et pour en revenir un petit peu sur ces rencontres incroyables, ça a été ce qu'il y a de plus marquant.
Puis on peut faire bouger. Rappelez-vous la Roumanie, 89, lorsqu'il y a eu l'histoire de Ceaușescu, je ne suis pas sûr des dates, mais en moins de 3 jours, on a décidé de faire une demande de fonds pour la Roumanie. Il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de francs. Ça, c'est la force de la radio. Donc, et puis les interviews. Ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est que vous rencontrez tout le monde, du ministre à l'employé de commerce. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est extraordinaire. Les portes sont ouvertes à tout le monde. Et surtout, vous rendez compte que peu importe la fonction, un homme reste un homme, une femme reste une femme. Ça apporte beaucoup d'humilité de travailler en radio. Vous êtes rien, vous êtes une voix. Alors ça, j'en ai une belle à vous raconter. La voix de la Corinne quand elle était jeune. Mais qu'est-ce qu'elle était belle, magnifique. Alors j'arrivais sur le terrain, ça, quand tu parles du terrain, c'était improbable. J'arrivais, je sortais de ma voiture avec mes techniciens, parce qu'à l'époque, on avait des petits technards qui venaient nous aider. Pour le qui dit mieux, on arrivait, on sortait de la voiture de Fréquence Jura. Tu avais le maire, le monsieur le curé qui venait de saluer. Et puis il disait, Fréquence Jura, Corinne, c'est vous Corinne? Ah, c'est vous Corinne? Il t'imagine, blonde, 1m80. Puis moi, j'ai toujours eu 15 kilos de trop, ils étaient juste tombés par terre, ces pauvres. Quoi. J'étais pas aussi belle qu'ils imaginaient. C'était très drôle.
Donc la voix, c'est magique. Oui. La radio, ça reste magique.
C'est le seul média qui reste de l'ordre de l'intimité. Vous écoutez où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Le journal, tu lis tout seul, tu lis pas à deux, ou alors l'autre t'énerve. La radio, c'est de l'intimité. Et tous les nouveaux médias qui arrivent, il faut s'adapter, bien sûr, n'enlèveront jamais cette magie.
Merci Corinne. Corinne Catin-Brichoux qui a été là de 84 à 98 avec quelques petits passages par les différents secteurs et surtout beaucoup de souvenirs. Oui.
Que de merveilleux souvenirs. Ça, Ça, j'en avais noté deux, trois. Jean-Pierre Mollier par terre quand il dormait.
Ah oui, ça. Il passait tout à l'heure.
C'est pas trop long, là. On voulait pas mettre de la musique là.
Si, on veut mettre de la musique. Juste le Jean-Pierre.
Jean-Pierre Mollier,
oui.
Il faisait les matchs. Il montait jusqu'à quoi pour faire les matchs de hockey. J'arrive pour faire l'émission du matin à 6h, donc t'arrives à 5h, tu ouvres le bureau, t'as un homme étalé par terre, c'était Jean-Pierre Mollier qui dormait. J'ai eu la peur de ma vie donc. Mais ce pauvre homme étant rentré à 1h30 du matin, évidemment, il pouvait que dormir par terre sous le tapis. Vous voulez que je vous parle de Jean-Claude Relval, ses deux doigts? Non.
Merci Corinne, bonne journée. À bon bientôt. Anniversaire, parce que vous avez aussi beaucoup contribué à tout ce qui était devenu l'antenne de Radio Fréquence Jura.